Nous poursuivons notre émission en direct de la Fac de droit à la journée porte ouverte. Vous écoutez bien sûr Radio Campus Tours sur le 99.5 FM. Jerry, tu es toujours là ?
Je suis toujours là.
Et nous recevons de nouveaux invités, Nathalie Albert-Moretti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la doyenne de la faculté de droit.
C'est ça.
Et nous recevons également Pascal Favard, vous êtes le directeur du master économie mécène.
Oui, et directeur du département d'économie.
Voilà. Alors merci à vous en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Madame Albert-Moretti, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos auditeurs étudiants ou futurs étudiants sur votre faculté ?
Alors d'abord, remercier Radio Campus de nous faire le plaisir de venir sur notre site aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir. C'est une journée extrêmement importante hein, aujourd'hui pour nous, les journées portes ouvertes. C'est une belle réussite. Vous pouvez le voir, il y a une très très forte affluence. On a fait en sorte d'accueillir au mieux nos visiteurs avec une introduction générale en amphithéâtre, avec des mini-cours qui sont proposés aux lycéens qui viennent souvent avec leurs parents, avec des visites qui sont organisées grâce à l'aide de nos étudiants. Donc une vraie belle dynamique et puis surtout, c'est le moment de le dire à la radio, un vrai engagement de l'ensemble des enseignants, de l'ensemble de l'équipe administrative, de l'ensemble des étudiants pour vraiment donner une belle image de cette faculté.
Et on peut aussi signaler quand même que, en tout cas, la faculté se distingue aussi par plusieurs reconnaissances à une échelle nationale. Je crois que vous avez plusieurs filières qui sont reconnues.
Alors c'est vrai qu'on a cette belle récompense d'être bien classé dans des classements nationaux. C'est vrai pour la licence de droit, qui est classée cette année encore quatrième au plan national, c'est-à-dire quatrième derrière des universités prestigieuses, hein, Paris 1, Paris 2, Aix-Marseille. Derrière, on a Tours, c'est une belle victoire. Et puis de nombreux masters sont classés très très bien à chaque fois dans ces classements nationaux. Voilà, je pense que c'est la récompense d'un engagement de chaque jour.
Comment sont faits ces classements ? Est-ce que c'est par rapport à l'insertion professionnelle des étudiants, justement ? Ou est-ce qu'il y a d'autres critères qui entrent en jeu également ?
Il y a beaucoup de critères. Il y a effectivement l'élément insertion professionnelle et débouché, mais il y a aussi la satisfaction des étudiants, c'est-à-dire qu'ils sont interrogés sur leur plaisir ou pas à suivre leurs études à la faculté. Il y a après des critères sur la présence enseignante, sur la bonne organisation ou pas du diplôme et de la faculté. Il y a toute une foule de critères en fait qui se passent, mais pas que l'insertion, mais c'est un élément important.
Je me tourne vers Pascal Favard. On a reçu tout à l'heure un étudiant en géographie qui nous disait que pour lui, c'était vraiment une plus-value à Tours d'être sur le même site que des étudiants justement d'économie et de droit. Alors à votre avis, comment ça peut influencer ces études ?
A priori, ça devrait l'influencer par des relations qui peuvent s'établir au resto universitaire, dans les couloirs, mais depuis la rentrée, c'est un peu plus formalisé puisqu'on a une réforme qui fait qu'on est obligé de prendre au moins en première année un module 3 en dehors de sa discipline. Donc par exemple, un économiste, il est obligé de prendre 72 heures de cours, soit en droit, soit en géographie, soit en gestion, soit en sciences politiques, soit dans des matières un peu actuelles à enseigner en anglais. Donc on l'a formalisé, la réforme fait que maintenant, normalement, des étudiants se rencontrent entre disciplines.
Et vous pensez vraiment que ce choix d'avoir mis la faculté de géographie sur ce site, ça va créer des professionnels made in Tours, si on peut dire ? Est-ce que ça va leur donner quelque chose de spécifique et de particulier ?
D'abord, on n'a pas mis la géographie sur ce site. Ça fait très très longtemps que la géographie est sur ce site. C'est historique, hein ? Donc c'est pas du tout nouveau. Alors après, pour créer des formations interdisciplinaires, c'est quelque chose d'assez compliqué parce que sur le papier, tout le monde trouve ça génial, mais après, il faut le mettre en place. Donc est-ce que la réforme des modules va nous conduire à mélanger les étudiants sérieusement et du coup à créer des masters ? Il en existe déjà, notamment en droit et géographie, d'accord ? Mais est-ce que ça va nous amener à en créer de nouveau ? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira, et on le saura assez vite, puisque dans 3 ou 4 ans, malheureusement, il faut recommencer les maquettes, puisqu'on a un rythme assez accéléré sur les refontes des maquettes, et à mon avis, on aura l'information pour voir s'il est pertinent de créer des masters. Parce qu'on ne va pas créer un master s'il n'y a pas un public qui est demandeur de mélanger de l'économie et le droit. Après, ça c'est local, c'est la perception locale. L'économiste, un peu vieux, moi, vous direz que normalement, méthodologiquement, la géographie et l'économie devraient travailler ensemble partout et depuis très 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 longtemps. Puisque on est des matières qui quand même, en tout cas en ce qui se fait de mieux dans la recherche, travaillons sur des données, donc l'outil statistique, et donc on devrait, la socio d'ailleurs devrait aussi être dans ce giron-là. Si on avait à faire quelque chose d'idéal, c'est sûr qu'il devrait y avoir économie, gestion c'est un peu différent, mais économie, géographie et sociologie, déjà ça devrait être. Et peut-être même la psycho, parce que quand on voit l'évolution de la recherche en psychologie, la psycho-quantitative devient quelque chose de fondamental. Donc vous voyez, les choses se restructurent. Après, il y a de l'inertie et il faut convaincre les étudiants. Parce que vous savez, moi je viens de faire un mini-cours là, à des futurs bacheliers, j'espère pour eux. Dès qu'on dit un peu de mathématiques, un peu de chiffres, on ne peut pas dire qu'on soulève les foules, hein. C'est compliqué.
Justement, par rapport à l'économie, c'est une matière quand même assez mathématique, si je comprends bien. Et comment les étudiants, par exemple, qui sont plus dans l'étude de droit, plus dans l'étude de texte, en fait, perçoivent justement cette réforme?
Alors, pour tout vous dire, nous avons fait les jurys de premier semestre il y a 15 jours. Comme on est en phase de nouvelle maquette, ça a été un peu compliqué et je n'ai pas encore pu regarder les résultats des modules 3 qui viennent d'ailleurs dans ma discipline. En L2, mais c'est un peu normal parce que en fait ils ont pris module 3 économie alors qu'ils n'avaient pas fait le module 3 en L1 puisque ça n'existait pas encore, ça n'a pas été très bon. Mais je ne peux pas vous dire, j'ai pas eu le temps de regarder les chiffres encore pour le premier semestre.
C'est encore un peu trop tôt justement pour...
Ah non, ils y sont les chiffres, mais je n'ai pas eu le temps de les regarder. Parce que je me suis préoccupé de finaliser les jurys pour l'économie. Et comme c'est des chiffres qui sont dans d'autres disciplines, hein, il faut que j'aille les collecter pour regarder. Donc la vérité, je ne sais pas. Ce que je sais, mais ça c'est une perception de mon équipe enseignante, c'est que notamment, il semblerait que, parce qu'on fait des groupes de TD, puisque à cause de la gestion des emplois du temps, donc ceux qui viennent de droit par exemple, ils sont plutôt dans un groupe de TD. En cours tout le monde est mélangé, mais en TD pour faciliter l'emploi du temps. Il semblerait qu'en tout cas, pour ceux qui viennent de droit, ça soit plutôt bien passé.
Alors peut-être un mot sur ce fameux master mécène. Est-ce que vous voulez nous expliquer ce que c'est ?
Ah, le mécène. Alors le mécène, c'est une réflexion que j'ai eue il y a très longtemps et il m'a fallu très 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 longtemps pour arriver à la maquette idéale, mais enfin on y est. L'idée, c'est... Moi, ce que je souhaite, c'est que les étudiants qui sortent d'un bac plus 5 aient les qualités universitaires, mais en même temps qu'ils trouvent un travail adapté à ce qu'ils ont fait dans leurs études. Parce que trouver un travail quand on sort du master, les chiffres nationaux, c'est quasiment tout le monde en trouve un. Mais moi, ce que je veux, c'est qu'un économiste, il trouve un travail de cadre économiste. S'il en a envie, bien sûr. Et donc, ce qu'on a créé, c'est un master qui surfe sur la vague du big data. Et donc, on forme nos étudiants, et c'est un peu compliqué parce que c'est pluridisciplinaire, à toute la méthodologie quantitative. Ça va de l'informatique, en passant par l'économétrie, les statistiques, les probabilités, mais aussi... les nouvelles méthodes de calcul qui s'appellent Big Data, les problèmes d'arbre de décision, les choses comme ça. Et si vous regardez sur les réseaux sociaux professionnels, en général, les métiers, c'est Data Analyst, Data Scientist, Business Analysis. Et je le dis en anglais parce que c'est écrit en anglais, même dans les annonces françaises.
Est-ce que ce master, justement, prépare au métier de Data Analyst ?
Oui. Tous nos étudiants, là, par exemple la promotion, ils ont soutenu, ils ont fait le grand oral de leur soutenance de stage de M2 en septembre, donc ils ont eu leur diplôme fin septembre. Là aujourd'hui, enfin c'était même brillant un mois, tout le monde a trouvé un CDI et les rémunérations sont à plus de 2000 euros net par mois, ce qui est largement au-dessus de la moyenne nationale des bac plus 5. Tous.
On rappelle que c'est un métier qui a de l'avenir, à tel point que, s'il me semble bien, la région centre investit justement dans la formation de métier de data analyst, par exemple avec des formations en CFIM, sans vouloir faire de concurrence avec la fac, loin de là. Est-ce que vous pouvez en dire plus justement sur les besoins à venir en business analyst ?
Les besoins, ils sont infinis. Je ne dis pas que ça durera 50 ans, mais sur les 10 prochaines années, c'est certain que... Parce que ce qu'il faut que vous compreniez, les données, il y a des gens en entreprise qui les utilisent depuis longtemps. Mais c'est EDF, c'est Thales, c'est ce genre d'entreprise. Mais maintenant, ça s'est démocratisé. Et même dans les plus petites entreprises, on ressent le besoin d'analyser les données. Et c'est même sans doute pire que ça, parce qu'à mon avis, même dans les collectivités territoriales et ce genre de structures publiques ou parapubliques, on va aussi se rendre compte qu'on a besoin d'analyser les données. Donc c'est infini. Nous, notre seul problème, c'est essayer de motiver les étudiants à évidemment faire un travail d'acquisition un peu ardu, parce qu'évidemment, ça ne peut pas être laxiste, l'étude d'analyse de données. C'est quelque chose, c'est juste ou c'est faux. Là, on est sanctionné tout de suite. Et quand on nous demande une prévision, si le lendemain, il s'avère que c'est pas ça qui s'est passé, évidemment, ça passe mal. Donc, parce qu'on a la sanction immédiate, hein, puisque nous, on est censé prévoir des choses. Donc, évidemment, on voit bien après si on a réussi à les prévoir ou pas. Donc, c'est quelque chose de passionnant, rémunérateur, où on peut faire des profils de carrière astronomique, parce qu'évidemment, on commence derrière un ordinateur à faire ça, mais si on a un peu d'ambition, on peut évidemment diriger des services. Nous, on a un étudiant qui dirige 100 personnes, par exemple. Il est sorti il y a une dizaine d'années, et il dirige une centaine de personnes. Et c'est tous les métiers. Parce qu'on en a qui travaillent chez des prestataires de services, on en a qui louent des voitures, qui sont chez des loueurs de voitures. C'est dans tous les métiers qu'on trouve du travail de data analyst. Tous les métiers. Donc, et il faut que vous imaginiez que ce n'est pas forcément pour calculer des prix ou des profits. Ça compte, mais ça peut être aussi pour gérer du personnel. Parce que quand on a des grosses unités, en fait, c'est de l'analyse de données aussi, la gestion du personnel. Donc, c'est infini. Pour le moment, c'est infini.
Une question pour Nathalie Albert-Moretti. Donc, on rappelle, vous êtes doyenne de la faculté de droit. Est-ce que vos fonctions de doyenne vous laissent le temps encore de donner des cours ?
Un petit peu, oui. D'abord, je le souhaite, parce que c'est le moyen de rester au contact des étudiants et c'est la meilleure manière de prendre le pouls d'un ensemble d'étudiants. Je fais des cours en deuxième année, c'est par choix aussi, parce que je touche encore des grosses promotions. Donc j'ai un retour immédiat sur ce qui se passe, sur ce qui va bien, sur ce qui ne va pas bien. Et puis, pour tout vous dire, c'est aussi une aération pour moi, parce que ça me permet de quitter la sphère des problèmes administratifs, de la gestion de conflits parfois, de la gestion de projet, pour aller, ce que j'aime beaucoup, contact d'étudiants jeunes en plus, deuxième année. Et par ailleurs, je continue à diriger un master de droit, master juriste de droit public, qui est un master en apprentissage, donc ce qui suppose pour le coup d'aller au contact des professionnels, d'aller rechercher des lieux d'apprentissage pour nos étudiants. Et ça permet aussi d'avoir une vision importante de ce qu'attendent les professionnels de nos étudiants. Donc ça permet de boucler en fait les choses, avoir un regard sur l'administratif, le management, la direction d'un établissement important. Être au contact des étudiants, être au contact, c'est fondamental, des milieux professionnels.
Si vous deviez résumer les missions d'un doyen ou d'une doyenne à quelqu'un qui, justement, ne connaît pas ces missions, comment vous les résumerez en trois mots ? Enfin,
en trois mots
ou un peu plus, hein,
Vous savez, dans un contexte de concurrence comme l'est celui des universités aujourd'hui, dont des facultés, hein, de droit, économie, gestion, enfin, sciences sociales, ça revient quasiment à gérer, je vais mettre des guillemets, hein, une petite entreprise, c'est-à-dire que on est à la tête d'un établissement, on gère les postes, on fait du management, c'est-à-dire qu'il y a tout un volet RH en fait, hein, management d'une équipe. On va rechercher des ressources, voilà, on va au contact des milieux professionnels pour aller chercher de la taxe d'apprentissage, pour rechercher des financements complémentaires de ce que l'on a, parce que sans vouloir pleurer à ce micro, les universités ne sont pas toujours bien traitées par nos gouvernements successifs. Alors on gère des étudiants, 5000 étudiants quand même à la faculté, c'est beaucoup. C'est autant de petits problèmes qui peuvent chaque jour apparaître. Donc on a une fonction qui est quand même extrêmement diversifiée et, pour tout dire, chronophage. Gérer des personnes, mettre en place de nouvelles formations, y réfléchir, donc animer des équipes pour ce faire, défendre nos postes et aller en chercher de nouveaux, défendre un budget, avoir une activité public relations vis-à-vis de l'extérieur, puisque un doyen de faculté de droit, économie et sciences sociales, il est en contact avec le bâtonnier, il est en contact avec le président de la chambre des notaires, il est en contact avec le président de la chambre des huissiers, il est en contact avec la préfecture.
Du directeur de la Banque de France.
Avec le directeur de la Banque de France, grâce à mon collègue économiste. Donc c'est, voilà, c'est vaste et passionnant.
Et quel conseil vous donneriez à un étudiant qui veut faire carrière à l'université, par exemple, en devenant enseignant-chercheur ou dans d'autres postes,
hein. Quel conseil je lui donnerais ? Je lui donnerais déjà le conseil d'aimer ce qu'il fait, parce que c'est une carrière difficile, en accès. C'est de plus en plus complexe d'accéder à cette fonction d'enseignant-chercheur, qui doit aimer ce qu'il fait, voire être passionné, ne rien lâcher, pour arriver à faire partie au final de ce petit noyau de personnes qui, ayant soutenu une thèse, arriveront à être qualifiées, si c'est la procédure, et puis à trouver un poste au terme de jurys de recrutement qui sont difficiles. Donc c'est un long chemin, il faut être motivé, c'est une belle carrière.
Passionné et patient, donc.
Et patient et combatif.
Oui, mais peut-être ce qu'il faut dire à nos auditeurs, je suppose que c'est plutôt des lycéens qui nous écoutent ce matin, ce qu'il faut dire, c'est que, très bien, par exemple, moi, je voulais devenir prof d'université, au lycée, d'accord ? Mais je ne savais rien de ce que c'était. Bon, moi, je voulais faire prof, je me suis dit, le mieux, ça doit être université, puisque c'est le plus haut. Vous voyez, c'est aussi simple que ça, quand on est lycéen. Après, il ne faut pas s'inquiéter. Le plus important, c'est de choisir plutôt la discipline, et les choses viendront petit à petit. Maintenant, ce qu'a dit Nathalie est très, très important. C'est quelque chose de pas sûr du tout, c'est-à-dire que on peut être très bon et ne jamais trouver d'emploi, ce qui n'est pas le cas dans le privé, par exemple, d'accord. Donc c'est quelque chose, il faut être passionné, il faut presque pas pouvoir vivre sans ça, parce que sinon il y a plus simple, plus rémunérateur et en même temps intéressant, parce que les jobs dans le privé sont aussi très intéressants. Mais je pense que si nos auditeurs ont l'âge que je crois, il ne faut pas trop penser à ça pour le moment. Pensez à plutôt quel type de discipline, et puis les choses viendront petit à petit.
Alors, une question, la minute actualité quand même, nous en avons parlé avec presque tous nos invités sur ce plateau, c'est que la fac de Tours s'est prononcée contre l'augmentation des frais d'inscription pour les étudiants hors Union européenne. Et alors, par curiosité, est-ce que l'un comme l'autre, vous voulez nous dire si ça concerne des étudiants ici, dans cette faculté, et quel positionnement vous avez pu avoir ? Est-ce que vous en avez parlé avec la direction de l'Université de Tours ?
On est pleinement solidaire dans cette faculté de cette position du président de l'Université de Tours, qui consiste à refuser d'appliquer le principe de la hausse des droits d'inscription à l'encontre des étudiants étrangers, d'abord parce qu'ici on en accueille beaucoup, des étudiants étrangers. Ils viennent souvent de pays qui sont en difficulté, ou en tous les cas ne sont pas forcément issus de milieux très favorisés, hein, dans leur propre pays. Et donc bien évident que si on pratique cette hausse, ces étudiants-là ne viendront plus à nous. Or, c'est notre rôle d'offrir, je crois, une possibilité de promotion à ces étudiants étrangers, dès lors que, tout de même, dès lors qu'ils ont le niveau suffisant pour venir suivre des études sans se retrouver en total désarroi parce qu'ils sont trop en difficulté. Mais sur le principe, évidemment que c'est un signal compliqué que de décider tout d'un coup d'une hausse énorme des droits d'inscription, sans concertation du tout avec les milieux les milieux universitaires sans discussion préalable. C'est ce qui provoque la réaction radicale en face. Hein.
Mais comment ça s'est passé au sein de l'université de Tours ? Est-ce que la présidence a contacté les différentes composantes de l'université pour essayer de voir combien de personnes ça concerne, qu'en pensent les équipes ?
On a eu des discussions dans tout un tas d'instances, c'est-à-dire tous les conseils qui sont les assemblées délibérantes, les assemblées d'élus de l'université. On a eu des discussions aussi dans ce qu'on appelle le conseil des directeurs de composantes, c'est-à-dire le conseil qui réunit autour du président tous les doyens, tous les vice-présidents d'université. Et à chaque fois, il y a eu une forme de consensus autour de ce qui est aujourd'hui la décision du président de l'université.
On parlait justement de cette hausse des frais d'inscription qui n'est pour l'instant pas encore appliquée à l'université de Tours. Espérons que ça dure. Est-ce que d'un autre côté, vous avez, vous, des étudiants qui partent pour des échanges extra-européens ?
Bien sûr. On a des accords avec, par exemple, des universités américaines, hein, des universités au Canada. Donc tous les ans, on a des étudiants qui partent. Alors évidemment, en ayant pris le soin de négocier le fait que quand l'un de nos étudiants part une année dans une université américaine, il ne paye pas les droits d'inscription de l'université américaine en question, parce que ce serait absolument impossible. Vous savez à quel point c'est onéreux, intouchable en fait, les droits d'inscription dans une université américaine. Donc ils payent les droits d'inscription ici, mais ils vont passer une année dans cette université-là, donc Canada et États-Unis par exemple. Donc oui, il y a des places, je ne vais pas vous mentir, hein, on n'a pas des centaines de places, pas du tout, parce que c'est une négociation un petit peu dure hein, d'obtenir ces places dans ces universités-là. Donc partent des étudiants qui ont un très bon dossier, parce que, évidemment, on les sélectionne aussi pour qu'ils donnent une bonne image de la faculté et qu'on ne perde pas ces places-là, évidemment.
Et est-ce que la hausse des frais d'inscription donc pour les étudiants pourrait avoir un effet collatéral par rapport à ces échanges ? En quelques mots.
La hausse des droits d'inscription, elle peut faire en sorte que certains étudiants qui venaient en France parce que les droits d'inscription étaient moins élevés, finalement revoient leur plan pour mettre en concurrence des universités dans le monde entier, finalement. Je sais pas, c'est un peu de la science-fiction pour l'instant. Mais...
Eh bien, cette matinée à l'Université de Droit va déjà toucher à sa fin, puisqu'il est bientôt midi. En tout cas, grand merci à nos deux invités, Nathalie Albert-Moretti, doyenne de la Faculté de Droit, et Pascal Favard, directeur du Master Économie. Merci à vous d'être venus sur notre plateau.
Merci.
Merci.
Et on se retrouve cet après-midi sur le site Portalis de l'École Polytechnique pour 2 heures de...